quatre pêcheurs de poissons, des gens simples, de peu de culture probablement, qui ne faisaient pas partie de la nomenclatura, qui ne faisaient pas partie des autorités. Et c'est cela que le Seigneur va chercher pour une mission qui va durer déjà 2000 ans. Et on ne sait pas combien de temps encore. C'est étonnant. Et l'Évangile est sobre sur ce choix-là. Il dit simplement, viens les trouver. Viens, suis-moi. Arrête ton travail, moi, viens, suis-moi. Comment ça peut se faire? Il n'aura pas fait de grands discours. Il n'a pas cherché à les convaincre. Il n'a pas fait de miracle pour les subjuguer. Et eux, immédiatement, ils laissent filer. Petite parenthèse que j'ouvre tout de suite. Vous savez, il est dit dans l'Évangile qu'ils jetaient, il y en a deux qui jetaient l'épervier. Alors, quand vous entendez parler de l'épervier, ne pensez pas à l'oiseau. Un épervier, c'est un filet avec lequel on pêche les poissons, notamment dans le lac de Tibériade. C'est un filet qui se lance en cercle, en quelque sorte, et on le referme comme une nasse, et on peut le tirer. Voilà un épervier. Donc, d'ailleurs, ne croyez pas qu'il a chassé au faucon pour aller chercher des poissons. Je ferme la parenthèse. Donc, comment se fait-il que ces hommes se laissent subjuguer? C'est parce qu'ils avaient un cœur pur. Parce qu'ils étaient de ceux qui, vraisemblablement, attendaient le Messie, les pauvres selon Dieu, comme on en parle dans l'Évangile, et qui étaient en phase, pour parler moderne, qui étaient lumineux eux-mêmes. C'était comme par leur pureté, par leur simplicité, par leur humilité, c'était des hommes purs comme des miroirs, purs comme des gouttelettes de rosée sur au bout d'une branche. Tellement purs que dès que le soleil est apparu, le soleil Christ évidemment, dès que le soleil est apparu, aussitôt, le soleil immédiatement aperçu, a vu ceux qui lui ressemblaient, ces pêcheurs, comme le soleil qui voit, si je peux lui attribuer ça, la pureté d'un miroir. Et eux, immédiatement, reflètent, acceptent, reçoivent cette lumière et réfléchissent immédiatement à la lumière. Et c'est par cette connivence, cette ressemblance, qu'ils ont eu la possibilité de immédiatement s'attacher indéfectiblement au Christ en allant jusqu'à la mort. Et ce qui est remarquable dans la sobriété du texte de l'Évangile, c'est de voir que le Seigneur n'a pas pris des savants. Parce que s'il avait pris des savants, ou des hommes d'autorité, ils auraient mêlé leur grain de sel au message évangélique. Ils auraient donné une interprétation. Ils auraient biaisé, ils auraient faussé, en quelque sorte, l'évangile, la bonne nouvelle que le Christ a amené. Alors que là, dans leur simplicité, dans leur humilité, ils n'avaient rien, ils ne savaient rien. Connaissaient les Écritures très probablement comme tous les Hébreux à cette époque-là. Mais ils n'avaient pas d'idée personnelle. Si bien que quand ils ont reçu l'Esprit Saint, après avoir été seulement pendant 3 ans avec leur maître, ayant reçu l'Esprit Saint, ils ont pu ouvrir leur bouche et dire ce que l'Esprit Saint leur inspirer, sans entendre la voix. Ce n'étaient pas des perroquets, ils n'entendaient pas une voix qu'ils répétaient comme s'ils étaient des haut-parleurs. Mais intérieurement, ils avaient une claire vision de la réalité de l'Évangile, de la réalité du Christ, de la réalité de son message, et ils ont pu le divulguer, le dire avec leur vocabulaire à eux, de manière à toucher la foule qui les entourait, jusqu'à aller à parler dans des langues ou dans une langue que tous pouvaient comprendre, alors qu'eux ne connaissaient pas, évidemment, ces langues. C'est une leçon pour nous, ce sont des leçons pour nous, pour acquérir cette simplicité. Hélas, l'école nous a pervertis. Je ne fais pas que de blaguer, je taquine Jean-Marie et les professeurs qui sont là, mais enfin, pas simplement, c'est vrai que cette connaissance, ces connaissances que l'on acquiert, ces sciences que l'on acquiert, faussent notre jugement, font de nous des hommes qui ne sont pas des hommes de cœur, qui vivent avec leur cœur, qui vivent avec la foi, mais qui vivent avec leur pensée, avec leur logique. Et là, l'Esprit Saint est coincé. L'Esprit Saint ne peut pas agir, il agit quand même, parce que Dieu trouve toujours un moyen d'agir chez l'homme. Mais il n'a pas la même luminosité, la même transparence que pouvaient avoir les apôtres. Et une partie de notre conversion, une partie de notre vie chrétienne consiste à réapprendre la simplicité, à réapprendre la véritable humilité, de manière à ce que nous ne vivions pas par nous-mêmes, mais que ce soit l'Esprit Saint qui vive en nous et que nous ne soyons que des miroirs de l'Esprit Saint. Ce qui demande pour nous, de notre part, je veux dire, ce qui demande aussi l'acquisition de l'humilité. L'humilité de ne pas vouloir faire écran, mais de nous vouloir transparents, de vouloir ne pas nous investir dans les choses, ne pas attendre de nous-mêmes, de notre science, de notre activité, de nos facultés, de ne pas attendre d'établir quoi que ce soit dans quelques domaines que ce soit, dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine apostolique, si je puis dire, du partage de notre foi, mais même dans toutes nos entreprises, laisser l'Esprit Saint agir. Cette humilité doit nous faire aussi rechercher justement la ressemblance avec le Christ, bien sûr, mais avec l'Esprit Saint. Le Christ a disparu à nos yeux. Il est toujours présent, mais il a disparu à nos yeux. Maintenant, l'Esprit Saint l'a remplacé pour révéler le Christ, pour révéler qui est le Christ, pour révéler le sens de l'histoire du monde, de l'univers, le sens de notre place dans l'univers, donc de notre salut. Et dans la prière Roi Céleste, nous disons « Viens et habite en nous, purifie-nous de ceux et sauve nos âmes. » Je ne vais pas contester cette prière, bien au contraire. Il faut demander à l'Esprit Saint de venir, d'habiter en nous, pour nous transformer. Mais il y a un risque de nous arrêter, à cette formule-là et de ne pas nous rendre compte que l'Esprit Saint est là. On n'a pas à le demander. Si, il faut le demander, je suis en train de vous dire qu'il faut le demander. Mais notre vocation n'est pas simplement de demander à l'Esprit Saint de venir. C'est évidemment de le souhaiter parce qu'on est indigne de le recevoir, donc de lui demander. Mais en même temps, notre vie chrétienne consiste à découvrir à sentir, à voir, grâce à l'Esprit Saint, comment justement il est en nous. Notre vie, toute notre vie, toute la révélation de l'Évangile est une attente et une réalisation. Les choses sont déjà réalisées. L'Esprit Saint est déjà en nous. Notre salut nous est déjà accordé. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux avec le Christ. Mais en même temps, il y a une tension. Il faut aller vers cela. Il y a une tension eschatologique. Il faut aller vers ce royaume des cieux. Il faut aller vers la connaissance de l'Esprit Saint. Et pour réaliser cela, il faut être comme ces gouttes de rosée dont je vous parlais tout à l'heure, comme ces miroirs. Il faut apprendre à enlever les taches qui sont sur le miroir, qui empêchent la lumière de se réfléchir. C'est ça, l'acquisition de l'humilité. Et l'aspect moral de notre vie, notre ascèse, notre prière, notre lutte contre les passions, ça, n'ont pour but que de nettoyer ce miroir, que de nous effacer, c'est nous qui faisons tâche. C'est notre moi, pas moi psychologique, mais vraiment notre investissement personnel, individuel, qui empêche l'Esprit Saint de briller, de se révéler. Et pour accomplir cela avec la force, le dynamisme, le souffle de l'Esprit Saint qui est déjà en nous, il faut suivre l'attitude des apôtres à laisser nos filets, à tout abandonner et à s'en remettre et à suivre le Christ. Nous sommes plus que jamais à une époque où nous sommes confrontés à nos fins dernières. Nous sommes confrontés à trouver le sens de notre vie sur terre dans un monde qui est de moins en moins facile. Et ça, c'est une grâce. On en souffre, mais c'est une grâce. Où est le sens de la vie? Nous sommes confrontés où, selon l'esprit du monde, à essayer d'établir un royaume, un paradis terrestre, c'est-à-dire à établir une société aussi juste que possible, aussi agréable que possible, chose qu'on n'emmènera pas au paradis, c'est le cas de le dire, puisque ça cessera au moment de notre mort pour chacun d'entre nous. Et depuis que l'homme cessait à établir ce paradis, pour l'instant, il n'a pas eu des réussites extraordinaires. Donc, où établir ce paradis terrestre, ou accepter de suivre le Christ qui nous amène dans un autre paradis. Et l'enjeu de notre vie, c'est qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de vivre pour les choses de la terre, de la logique de la terre, de la science de la terre, du bien-être sur la terre, de notre épanouissement terrestre, hein, où on cherche à s'établir à la suite du Christ dans le royaume des cieux où nous sommes déjà. Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Je n'en fais pas une obligation morale, mais je veux dire que la situation dans laquelle nous sommes nous amène à cette interrogation, à cette attitude, pardon, des apôtres: lâcher les filets, lâcher son père qui est dans la barque, et suivre à l'aventure, si je puis dire, suivre là où le Christ veut nous mener, mais en étant sûr qu'il nous mène là où il est bon d'être. Ça n'a pas empêché Simon, dit Pierre, de renier le Christ, lui aussi, à certains moments, de se faire même appeler, rembarrer, en se faisant appeler arrière de moi Satan. C'est un peu violent quand même. Ça ne l'a pas empêché donc d'avoir des faiblesses. Cependant, au-delà des faiblesses, il retrouvait sa vocation parce qu'il aimait. Il avait foi en celui qu'il avait décidé de suivre. Il est jamais revenu sur sa décision de suivre celui qu'il avait appelé. Or, tous, sans exception, nous sommes appelés, pas forcément à être apôtres, enfin si, d'une certaine manière, bien sûr, mais pas forcément à aller prêcher et au risque du martyr, hein, chacun a sa vocation, mais tous, nous sommes appelés à abandonner nos filets, c'est-à-dire ce qui fait la trame de notre vie, ce avec quoi l'épervier avec lequel nous essayons d'attraper les bienfaits de cette vie, autrement dit notre science, notre savoir, notre moi, etc., de manière à suivre le Christ qui nous emmène là. Nous ne connaissons pas le chemin, nous ne connaissons pas les modalités, mais nous sommes sûrs qu'il nous mène vers ce royaume qui nous mène. Et il serait dommage de passer notre vie à nous attacher à une existence éphémère qui, par définition, cessera à un moment ou un autre. Il serait dommage de nous attacher à une vie éphémère et de passer à côté d'une vie éternelle. Et j'en profite pour redire que la vie éternelle n'est pas une vie qui commencera après notre mort, qu'il faudrait préparer, mais c'est une vie qui a déjà commencé avec notre baptême, qui nous convient de goûter, de sentir, de cultiver pendant notre vivant, parce que ce royaume auquel nous amène le Christ est déjà d'une certaine manière sensible, perceptible, réalisable, connaissable. Et ça, c'est le témoignage des apôtres que nous sommes, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint au moment du baptême, et l'Esprit Saint agit de toute manière en nous, à nous d'être suffisamment propre, suffisamment clair, suffisamment discret, suffisamment humble, disons, pour le laisser transparaître et amener l'accomplissement de son œuvre. Vous voyez, à travers les quatre versets de l'Évangile que nous avons lu aujourd'hui, quel enseignement sur notre propre destinée.